Et bonsoir à tous, bienvenue dans le Paris Central Show. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief de ce match de Super Coupe de France entre le PSG et le FC Nantes. Bonsoir à tous. Est-ce que c'est le retour du football?
Oula,
Il
oula, oula,
en
ça a été le retour du foot pendant 15 minutes. Mais après,
commence bien, il en commence bien.
c'est le retour du football officiel déjà, match officiel. Après, est-ce que c'est le retour du
D'où la
football?
question, d'où la question. Ben bonsoir à tous, comment vous allez les gars pour commencer?
Qui commence?
Bah vous, hein, parents de caméra, hein, comme
Bah,
d'habitude.
Igor et Grishka.
Je vais dire bonjour là, en fait, si tu veux. C'est bonjour.
Bonjour à tous. Donc, il faut répondre à la question, est-ce que c'est le retour du football? Bah, comme je l'ai dit, c'est un match, premier match officiel de la saison. Il y a eu des choses encourageantes, notamment dans les sorties de balle où il y avait une solution pour le porteur du ballon. On verra tout à l'heure les détails. Après, de la 15e à la 90e, je trouve que c'est plus décousu. Il y a moins de trucs un peu stéréotypés, un peu statiques, ce qui n'est pas normal non plus parce que physiquement, on n'est pas encore prêt de toute façon à enchaîner. Et donc voilà, de la 15e à la 90e, il y a des séquences sympas, mais c'est séquentiel. Alors que les 15 premières minutes, c'est globalement 15 premières minutes. À
Qu'est-ce
toi,
que tu
Gris.
penses, toi, Adrien, justement, de tout ça? Est-ce que
Ben,
pour toi...
attends, il y a Grishka qui va parler. Ben non, mais en fait, c'est un match où tu comprenais rien, mais pour deux raisons différentes. Il y a par rapport au Vasco, j'irais jusqu'à la 20e, où tu avais du mal à comprendre pourquoi ça fonctionnait. Enfin, après, c'est pour détail, il y a la volonté d'apprendre au bon milieu, il y avait une cohérence tactique. Et ensuite de ça, bah, tu comprenais rien parce que c'était le dawa partout. Et Paris n'est pas d'accord, mais moi, pour moi, en tout cas,
Non, je parle du commentaire.
Ah d'accord. Ben, le dawa partout et je captais rien et c'était pas très intéressant. On est passé de 15 minutes qui étaient passionnantes à un reste de match qui était soporifique, quoi, à mes yeux en tout cas. À part quelques petits buts, mais ça correspond à
Et tonton
pas
râleur,
grand-chose.
Igor et Grishka, optimiste, jusqu'au
Mais
bout.
toi, justement, Barry, pour amener un peu plus de nuances dans tout ça, qu'est-ce que tu as pensé de ce match?
Bah, c'est vrai qu'il y a des séquences de jeu où c'était un peu brouillon. Là, je les rejoins. Par contre, dans l'ensemble, moi, j'ai bien aimé. C'est plus dans l'apport individuel que j'ai bien aimé. Là, je vois par exemple dans les commentaires, Sarabia est lent et mou, c'est abusé. Non, je trouve au contraire que Sarabia a apporté quelque chose aujourd'hui, notamment dans sa position de numéro 9. Il s'est cantonné à sa position de numéro 9. Et vous vous rendrez compte qu'on ne jouerait pas aussi bien si Kylian Mbappé était là. C'est pas pour dire que Kylian Mbappé est mauvais, loin de là. Mais Kylian Mbappé va vouloir participer au jeu, forcément. Donc, ça va être plus difficile d'avoir un numéro 9 en position d'avant-centre. Mais pour revenir au match, non, j'ai trouvé très intéressant. Je trouve qu'individuellement, tu as des joueurs qui se sont pas mal montrés, notamment Sarabia, notamment Messi, que j'ai trouvé très intéressant, notamment Neymar aussi, dont on discutera plus tard, mais qui a servi justement à ce retour du football, entre guillemets. Et le dernier, notamment Vitinha que j'ai adoré, sans compter les Pistons qui ont fait un très bon match.
Je peux
Bah,
rebondir.
bonsoir. Il y a Steve qui nous dit qu'est-ce qu'on a pensé du système au-delà du score. Ben déjà, j'ai envie de vous dire, les gars, Rome ne s'est pas faite en un jour, la défense à trois non plus. C'est notre premier match officiel dans ce système et il faut dire ce qu'il y a. Hein. On a vu des choses qu'on ne voyait pas l'an dernier. On a vu un 4-0. On a sécurisé le score. On a fait un clean sheet. On a marqué pas mal de buts. Alors, je dis pas non plus, ça y est, les gars, tous en slip, on va soulever cette Ligue des Champions dans 8 mois. Mais il y a quand même des motifs d'espoir dans le jeu qui sont à mettre en avant. Et je pense que ce serait cool quand même d'en parler, mais je vois que Drias, ça lui brûle les lèvres de s'exprimer, donc rebondis sur le sujet, vas-y.
Bah, alors, je vais rebondir juste après, et pour
On en
Sarabia,
parlera
en
après des
fait,
joueurs.
non, mais par rapport à ce que disait Barry, c'est un joueur utile. C'est-à-dire qu'effectivement, il va pas, c'est pas le Fury class, et il faut pas attendre ça de Sarabia, mais il est utile dans ses déviations, il est utile dans ses appels, il est toujours dans le service de l'équipe, et je trouve ça assez dur de tomber sur lui. Maintenant, par rapport à ce que tu disais, moi, j'étais extrêmement critique par rapport à l'évolution, notamment au niveau du travail de la charnière. Et j'ai été rassuré pendant 15 minutes. Alors, on pourrait se dire, bah, 15 minutes, c'est pas terrible, mais c'est déjà beaucoup par rapport au match d'avant où c'était rien du tout. Et donc, ça va dans le bon sens. Maintenant, de là à se dire rassuré, on n'y est pas. Mais de là à se dire, ça va dans le bon sens, eh ben, on y est. Et donc, c'est quelque chose de très positif pour répondre à ce que tu disais tantôt.
Moi, je pense que c'est trop tôt pour juger, notamment face à un adversaire comme Nantes qui, les pauvres, ont fait un match. Assez pauvre, que ce soit techniquement ou tactiquement, ils étaient quand même assez coupés en deux, de manière assez incompréhensible, notamment défensivement. Donc je pense qu'à l'animation offensive, il y a eu des choses intéressantes, comme je disais tout à l'heure, pour les premières sorties de balle, avec Verratti en position basse, et Vitinha ou Neymar, voire Messi qui redescendait. Donc on avait vraiment un joueur derrière la ligne. Ce qu'on n'a pas eu hein, souvent, notamment quand Paredes jouait, Paredes avait tendance à venir trop près de Verratti. Du coup, les deux étaient sur la même ligne, on n'avait plus ce joueur entre les lignes. Donc ça, c'était intéressant. Pour les sorties de balle, après, est-ce que c'est le système ou est-ce que c'est l'apport d'un Vitinha? Ça, on ne sait pas encore. Défensivement, on n'a pas été pris forcément dans le dos, comme on avait pu le voir dans les matchs amicaux. Par contre, il y a des problèmes, notamment de placement sur les centres surfaces où les trois laissent trop d'espace. Il y a eu des ballons qui traînaient, et c'est là que Nantes a eu ses occasions. C'est sur des centres, des ballons qui traînent, et les Parisiens ne sont pas les premiers sur ces ballons-là.
Alors, certes, oui, c'est vrai qu'il y a eu quelques lacunes défensives, mais malgré tes lacunes défensives, tu te retrouves à faire un clean sheet. Nantes n'a cadré qu'une seule frappe en première mi-temps. Il y a quand même des motifs d'espoir à souligner aussi. Alors, je ne dis pas non plus quoi résoudre tous nos problèmes, mais je pense que cette défense à 3, ça te permet quand même une certaine solidité que tu n'avais pas l'an dernier. Alors, on ne sait pas combien de matchs Ramos va jouer cette saison. Hein. On ne sait pas d'ailleurs si on va recruter un joueur comme Skriniar ou un autre défenseur central de haut niveau. Mais est-ce que cette défense à 3, justement, c'est la question que je pose, est-ce qu'elle n'amène pas des possibilités différentes par rapport à ce qu'on a vu l'an dernier? Et qu'est-ce que ça peut amener de positif si, bien sûr, ça se travaille dans le temps? Parce qu'on n'en est qu'au début de ce système et tu ne peux pas changer complètement de système et attendre que l'équipe joue un football fluide en 15 jours. On ne va pas se mentir non plus.
Après, dans les faits, si tu regardes bien en phase défensive, on n'était pas forcément en défense à 3. On avait clairement une ligne de 5 clairement établie. On avait réellement les deux pistons qui redescendaient clairement sur la ligne des centraux. Pardon ?
15e. Sans ballon,
j'ai pas entendu. Oui, sans ballon.
Il y a une ligne de 5.
Pas avec le ballon, je parle en phase défensive, justement. On avait clairement une ligne de 5 bien définie. Après, avec ballon, au début, pendant peut-être 20 minutes, au début du match, je ne comprenais pas le placement de Verratti. Parce que je n'arrivais pas à comprendre comment il pouvait faire un 5-3-2 de cette façon-là. Puis après, j'ai commencé à comprendre qu'en fait, Verratti, il avait une sorte de rôle hybride entre le 6 et le relayeur à certaines phases de jeu. Et que notamment lorsqu'il était en position de 6 et que Vitinha était lui en position de relayeur, tu avais constamment Neymar qui redescendait pour apporter le surnombre au milieu de terrain et avoir une sorte de double relayeur. Et Neymar, lui, lançait soit Messi, comme d'habitude, mais bon, ça, on le sait très bien, mais aussi Sarabia ou d'autres. Et ce que j'ai aimé aussi dans ce jeu-là, c'est qu'on a enfin cherché à trouver nos pistons. Offensivement, Vitinha cherchait à les trouver. Après, on l'a peut-être moins fait. Je trouve qu'en seconde période, ça s'est perdu. Je trouve qu'en seconde période, on est retombé au travers dans ce jeu offensif. À certaines phases de jeu, lorsque nos pistons étaient esselés, on avait un joueur qui était soit Neymar, soit Messi ou soit Vitinha qui essayait quand même de les trouver. Après, j'aimerais qu'on les trouve un peu plus, mais je trouve qu'on les a quand même pas mal trouvés aujourd'hui.
Merci. Je peux mettre un peu nuance à ce que tu dis, Barry. C'est qu'il y a un début, hein, bien entendu, mais il y a des choses que j'ai relevées parce que nous tous, on prend des notes du match pour voir des choses qui nous intéressaient. Et moi, ce que j'ai bien aimé, notamment, c'était les dédoublements. L'avantage de ce système, c'est que enfin, Neymar et Messi jouent dans l'axe parce qu'ils ne peuvent plus jouer, on va pas se mentir. Mais du coup, ça a permis à Hakimi et Nuno Mendes de dédoubler un maximum, et même à Bernat quand il est rentré d'ailleurs aussi. Et plusieurs fois, j'ai vu des mouvements intéressants. Tu vois, il y a une, deux, avec Neymar qui relançait Nuno Mendes en profondeur, ou même Hakimi qui, au final, dans ce poste, a été vachement plus sollicité que l'an dernier quand il jouait un rôle d'arrière-droit avec Di Maria qui était ailier droit. Donc, ça te permet aussi d'écarter le jeu pour le revenir dans le centre. Et c'est d'ailleurs comme ça que vient notre troisième but. Tu écartes le jeu pour revenir.
Vraiment des ailes. J'ai envie de rebondir sur ce que disait Barry. C'est clairement, et c'est quelque chose que tu vas retrouver de manière épisodique au travers de la pré-saison. Je ne sais pas exactement quel est le bon mot, mais c'est la tentation, enfin pas le laisser, je sais, j'arrive pas à trouver les mots, mais laisser en gros d'avoir un surnombre constant au milieu, c'est-à-dire de toujours avoir un joueur de plus que l'adversaire au milieu, et c'est quelque chose qui s'est vraiment vérifié, et notamment avec un Verratti qui était plus que Regista, et limite il interprétait le rôle de Marquinhos sous l'époque Tourelle, il était entre la charnière et le milieu, et t'avais, comme le disait Barry, les offensives qui venaient en permanence amener ce surnombre, et c'était extrêmement intéressant. Après, ça a duré que pendant 15 minutes. Pour les ailes, oui, parce que là, tu vois le verre à moitié plein, mais le verre à moitié vide existe aussi, et on a vu Hakimi reproduire des allers-retours non-stop sans être servi une seule fois. Il y a vraiment pour moi une première partie du match et une deuxième partie du match, comme si ce qui était demandait trop de concentration et que pour l'instant, on n'était pas capable de le produire sur la durée. Et il y a faut vraiment regarder d'un point de vue tactique, je pense, les 15 premières minutes. Oubliez le score, parce que le score est un peu mensonger. Pour le score, on va vraiment l'expliquer par aussi la performance nantaise. Mais retenir ces 15 minutes et se dire que c'est sur la base de ces 15 minutes qu'on va construire derrière, où effectivement, on écartait beaucoup. Et pour rebondir enfin sur Vitinha, c'est ce qu'on disait sur Sarabia tout à l'heure, c'est pas forcément un fioré classe, mais c'est un joueur utile. C'est-à-dire qu'il va tout de suite chercher la passe vers l'avant. Il va souvent choisir d'écarter, il fait régulièrement les bons choix, Et c'est enthousiasmant, en fait. Ce qu'on a vu pendant 15 minutes était vraiment enthousiasmant par rapport à certains trucs qui étaient très inquiétants dans la période précédente.
Je voulais juste répondre à ce commentaire, Drias. Si Kevin, il dit que pour lui, Sarabia n'a pas fait un très bon match. Alors moi, je trouve au contraire, Sarabia a fait un bon match. Le problème, c'est que quand tu vois le match de Messi et Neymar à côté, bah, lui, tu le vois moins. Mais pour moi, il a fait un match très utile.
Excuse-moi, tu parlais de Drias, je ne sais pas qui c'est. Là, il y a Grish.
Excuse-moi.
Vas-y, Barry.
J'ai relevé notamment une séquence de jeu par rapport à ce que je disais, à la 29e minute, où tu as Neymar qui redescend, qui récupère le ballon et qui lance Mendes dans la course sur les côtés. C'était à la 29e minute. Et une chose aussi que j'ai bien aimé, c'est à certaines phases de jeu, tout à l'heure j'expliquais que Neymar redescendait en position de relayeur pour pouvoir apporter le surnombre. Et ce que j'aimais bien, c'est qu'à certaines phases de jeu, tu avais Mendes qui se servait justement du fait que Neymar redescendait, que le joueur qui est au marquage adverse sur Neymar le suivait, et donc du coup pour prendre le couloir. C'est une séquence de jeu qui est bien aimée, et je trouve que Mendes a bien utilisé les déplacements de Neymar. Et dernière chose, 15 minutes, je trouve qu'on est quand même un peu dur. Je trouve que ça a duré quand même, allez, 30 minutes, voire la première mi-temps, où clairement on a senti vraiment un jeu assez intéressant.
Entre la 15 et la 15e, on n'y arrive plus à grand chose.
Ensuite, ouais, c'est peut-être plus 20 en vrai. Mais bon,
ensuite, il y avait les pressings aussi. Après, il y a un petit moment de flottement. Là, je suis d'accord avec vous. Je trouve que de la 20e allez, à la 30e, 35e, on était un peu dans un moment de flou de football et on essaie de passer avec Vitinha, de passer avec Neymar, de passer avec Verratti, enfin, ceux qui ont de la maîtrise du ballon. Et donc, c'était un peu brouillon. Puis, on s'est quand même pas mal remis dans le bain en fin de première période.
Pour revenir sur le jeu orientation, côté, il y a eu des séquences intéressantes qu'on n'avait pas forcément eu les dernières années, notamment sur remise derrière dos au but, et puis on oriente rapidement. Maintenant, on voit que c'est encore en cours de travaux et qu'il y a des joueurs qui sont moins habitués que d'autres. Vitinha, il est à l'aise là-dessus. Marco, on a vu qu'il a eu quelques pertes de balles. On a vu que parfois, il a du mal à faire le bon choix. Il va jouer dans l'axe alors qu'il pouvait changer d'aile. On sent que Verratti, il va lui falloir du temps et du travail. Est-ce qu'il en est capable maintenant ou pas? Ça, c'est une autre question. Et il y a aussi Neymar et Messi qu'on fait tous les deux un excellent match, mais il y a certaines séquences, notamment j'en pense une où ils se font un quadruple 1-2 à 2 cm l'un de l'autre alors qu'il y a Hakimi.
Il y en a eu une,
celle du quadruple 1-2. Oui, je signale qu'on a vu le match ensemble et que dès les premières minutes, tu disais on joue trop axial et on est capable.
Oui, ça oui, mais par contre le truc de
je me la passe, alors que
d'habitude…
Tu peux me laisser finir s'il te plaît?
Vous êtes infernal, je vais vous couper le micro tous les deux.
L'idée d'auditeur de Sarah Ballon fait que moi, c'est que Neymar et Messi, il n'y a eu qu'une séquence où il y a ce quadruple 1-2, mais il y a plusieurs fois où ils vont s'appuyer l'un sur l'autre et ne pas jouer côté alors que tu avais des possibilités. Oui. Et les actions qu'on a qui sont intéressantes, d'ailleurs, c'est plus des. Comme le troisième but, effectivement, pour moi, ce n'est pas vraiment une orientation vraiment elle, c'est un appel qui vient de l'aile et qui finit quand même par un centre, mais c'est pas un débordement, enfin, ça ne vient pas sur une course vraiment. Sur l'aile, c'est un appel central. Sarabia qui fait la remise en extension, qui est très belle d'ailleurs. Et ça, on a été pas mal sur les louches au niveau des half space pour lancer nos attaquants.
Alors, pour continuer justement ce live, je vous propose qu'on entame le sujet suivant, qui était justement les choix de Christophe Galtier, parce que la composition ressemble, mais n'est pas la même que celle de Mauricio Pochettino par rapport à l'an dernier. Qu'est-ce que vous avez aimé et pas aimé dans cette composition? Alors bon, à part le fait que Gay n'était pas là, Basto, des choses qui t'ont plu justement dans la compo.
Non, il n'y avait pas vraiment de surprise parce qu'on avait vu, on savait que la compo du dernier match amical allait être celle de ce soir. Je pense qu'avec les joueurs dispo, il suffit de regarder la qualité du banc par rapport à nos joueurs. C'est les 11, pour ce système, c'est les 11 joueurs à ce poste actuellement. Il n'y a pas Mbappé qui est là. Donc il n'y a pas vraiment, en fait, c'est le 11 que tout le monde aurait plus ou moins mis. Alors il y avait peut-être des gens qui auraient préféré mettre Kalimuendo plutôt que Sarabia, j'ai vu dans les commentaires, mais ça a donné raison à Galtier de mettre Sarabia, puisque Sarabia a joué, comme le disait Barry, ce rôle de neuf qui était surtout très intéressant sans ballon pour faire ses appels et libérer des espaces pour Neymar et Messi.
Alors il y a Aider qui est un peu pessimiste, qui lui dit c'est que Nantes, le vrai test c'est contre le top 4 de la Ligue des Champions, c'est le premier match officiel, ça fait qu'un mois qu'on a un nouveau coach. Est-ce que Pochettino, il commence par des 4-0 avec du beau football? Je ne suis pas tout à fait sûr, hein, je revérifierai. Mais je pense qu'avec la saison qu'on a passée l'an dernier, on a le droit quand même d'être un peu heureux. Et je pense que c'est ce que je vois d'ailleurs dans le chat, hein, la vie générale. On est plutôt content. Mais justement, Drias, qu'est-ce que tu as pensé, toi, des choix de Galtier ce soir, en tout cas?
Et je pense que tu as la dent dure contre Pochettino et que tu ne vas pas le lâcher. Et que dans un an…
Je l'ai tellement défendu, il mérite.
Mais moi, je pourrais défendre Pochettino, mais
Alors.
on s'en branle et ce n'est pas le sujet là. Le sujet, c'est les choix de Galtier. Et oui, après, si tu veux, les choix de Galtier, c'est un petit peu étrange d'en parler dans le sens où c'est ce qui a été fait, comme l'a dit Basto, c'est vraiment ce qui a été fait depuis le début de la, depuis le début de la, du stage au Japon. Et donc, on est dans la continuité. Alors, après, il l'a annoncé dès le départ. Il y a une cohérence sportive derrière. Bon, ben on verra. Là, il y a un quart d'heure, c'est déjà très bien. Maintenant, il va falloir que ce soit plus qu'un quart d'heure. Et
je veux juste réagir à un commentaire, quelqu'un qui disait que ceux qui étaient contre Galtier commencent à retourner leur veste. Non, moi, j'ai toujours été très droit. Si le PSG joue bien, c'est Sacramento. Et si le PSG joue mal, c'est Galtier.
et on est les premiers à avoir initié le chemin de la doudoune ici. On a fait des lives en doudoune en plein juillet pour vous, les abonnés. Et justement, on continuera. Si on atteint les 200 likes, on continue le live en doudoune. Drias, en tout cas, mettra sa plus belle doudoune en ce qui me concerne. Mais justement, les gars, pour revenir sur les choix de Galtier, Barry, toi, qu'est-ce qui t'a plu et qu'est-ce qui t'a moins plu dans les choix de Christophe Galtier ce soir?
Alors déjà, juste avant de parler des choix de Galtier, pour poursuivre sur ce que disait Bastos, enfin Igor, pardon, notamment sur le but de Messi, regardez bien le positionnement de Sarabia. Le faux appel de Sarabia pour aspirer la défense. Le défenseur ne se laisse pas prendre, mais il a ce petit flottement d'un quart de seconde, d'une demi-seconde, qui laisse l'espace à Messi et qui permet à Messi de s'engouffrer dans ce trou de souris et justement d'aller mettre le but. Ce petit quart de temps dans l'appel de Sarabia, bah, c'est à rien et pourtant, ça aide derrière à Messi à marquer. Donc non, je trouve que Sarabia est intéressant. Dans les choix de Galtier, moi je trouve que l'équipe qu'il avait mis en place était assez intéressante. Dans le projet de jeu, j'ai trouvé ça assez intéressant. Au début, comme j'ai dit, j'ai trouvé ça, je trouvais que le positionnement de certains joueurs était un peu particulier. Parce que je ne comprenais pas, je me disais, finalement, Verratti est 6, mais ça veut dire que notre seul rayeur, c'était Vitinha. Mais en fait, tu avais Neymar qui faisait la passerelle. Et donc, forcément, il y avait toujours ce sort de surnombre qui était là. Donc, c'était assez intéressant. J'ai trouvé quand même que Neymar et Messi, ça fonctionnait quand même pas mal. Même si je trouve qu'à certains moments, ils essayaient de trop chercher, notamment une phase de jeu où Sarabia était scellé, mais Neymar veut passer sur Messi. Après, au début, il n'y avait pas de quoi fouetter un chat, en première période. En seconde période, par contre, c'était un peu plus axial et c'était un peu plus dérangeant. L'entrée de Kalimuendo, je l'ai trouvé assez intéressante. Et je trouve qu'au contraire, mettre Kalimuendo sur le banc pour pouvoir avoir justement, vous savez, ce jeu que j'avais dit qui pourrait devenir une signature au Paris Saint-Germain, c'est-à-dire qu'on passerait du côté gauche et donc tu aurais Neymar qui décalerait le latéral, qui prendrait le couloir et la profondeur pour pouvoir le remettre à Kalimuendo. On a tenté de le faire. Ce n'est pas passé cette fois-ci, mais je pense que ça pourrait devenir une signature à l'avenir avec.
Mais Barry, ce soir, on affrontait le grand, l'immense, l'inimitable Nicolas Palois. Bien évidemment, il a posé problème
à
certaines reprises.
Il y a une séquence. Je me permets d'interrompre.
Non, je t'inquiète.
On a un nounou qui finit sur le sol. On est en train de se dire, mais qu'est-ce qu'il a fait, Palois? Mais en fait, il a juste fait un contact du torse. Le nounou était sur le sol, il arrivait.
Par contre, le contact Nuno Mendes Sissoko. Ah, un peu plus douloureux celui-là.
Ça, c'est Momo aussi.
Nantes avait sorti les hommes bien balèzes pour le match de ce soir, en tout cas.
Ce que j'ai bien aimé sur les choix de Galtier, c'est pas vraiment dans les choix, mais c'est plus dans l'animation offensive. C'est que les trois offensifs, ils se plaçaient entre les lignes. Et moi, j'avais à un certain moment, des fois, ils le faisaient pas, mais en général, ils le faisaient. Et moi, j'avais cette interrogation-là. Alors, je sais pas si avec Kylian Mbappé, on le fera. J'ai des réserves dessus, mais je suis en train de monter une vidéo justement sur ce 3-5-2 là pour en parler. Mais j'avais bien aimé ça, j'ai trouvé qu'il se plaçait bien entre les lignes et il y avait quand même un sorte de pressing lent qui se mettait en place. Donc il y avait quand même certains principes de jeu qu'on espère voir avec le 3-5-2 à l'avenir. Et dernière chose, dans ce 3-5-2 là, justement dans le placement des lignes, il y avait justement Nantes qui tentait de ressortir le ballon. Alors oui, certains me diront c'est Nantes, c'était beaucoup plus facile, c'était pas un adversaire très compliqué, mais dans la manière de bloquer la relance du premier relanceur, c'est-à-dire le 6 de Nantes, à certaines phases de jeu, j'ai trouvé que le Paris Saint-Germain s'en sortait pas mal.
Pour ceux qui disent que juste le premier test, ce sera le Real et c'est pas Nantes, j'irai pas jusque-là, mais il y a des premiers tests qui arrivent à la troisième journée, notamment je pense au Lille de Fonseca, il y aura Nice de Favre qui arrive assez rapidement aussi. C'est plus ce genre de match qui seront des tests, parce que c'est des coachs qui sont bien meilleurs pour orienter le jeu et pour peut-être mettre en difficulté notre défense. Là, c'était...
J'ai envie de pondérer ça dans le sens où il y a vraiment eu, pour moi, il y a vraiment eu 20 minutes et le reste du match. C'est-à-dire que les 20 premières minutes, tu es en train de les faire et je pense que quel que soit l'adversaire que tu vas avoir, tu vas leur poser d'énormes soucis. Après, tu n'es pas capable de le tenir sur la durée, mais les 20 premières minutes, il y a quand même une vraie qualité, Baston.
Je ne dis pas ça, je te dis que le premier test, quand tu auras des équipes comme
Nice,
qui même quand on est en place, peuvent trouver des circuits côtés ou des circuits
mais ça,
travaillés.
Ça, oui, mais
Nantes n'avait pas de circuit préférentiel.
Si tu veux, par rapport à tous les matchs et tous les commentaires qu'on a pu faire, on était en mode, dès qu'il va y avoir de la difficulté, on va être en PLS, etc. En tout cas, moi. Et là, tout d'un coup, tu as vu un quart d'heure où effectivement, il y a quelque chose de consistant, où à la fois défensivement, tu es capable de répondre aux positions adverses, quelles qu'elles soient. Et ensuite de ça, oui, mais... Enfin, pour moi, réduire la performance à juste Nantes.
Alors, par contre, comme Paris qui presse à 4-0, j'ai pas vu Paris. C'est pas vraiment Paris, c'est pas vraiment le pressing hein, sur ce match qu'on peut mettre en avant. Il y a soit un pressing dans les premières secondes haut, soit un pressing bas, mais le milieu, par exemple, dès que ça passe le milieu, Nantes, c'est un des défauts du match. Nantes a facilement passé de sa défense à nos 30 mètres sur une ou deux passes une fois que le premier pressing est déjoué.
Je pense à Neymar, Nuno, qui ont quand même fait des pressings assez intéressants, quand même. Tu vois, je trouve un peu dur, Basto, parce que. Ouais. Il y a même l'anecdote de Comboiré qui allait voir Neymar en lui disant alors tu te mets à défendre maintenant.
Mais ça, c'est le pas premier, pour rien. Justement, le premier pressing haut de la première ligne. Mais une fois que celle-ci est passée, le milieu, Vitinha et Marco n'ont pas été dans un pressing très constant, mais je pense que c'est volontaire après.
C'est volontaire.
La problématique qu'on a, c'est que, en fait, si tu vois ce que Basto est en train de mettre en lumière, c'est qu'on n'a pas organisé pour l'instant pour organiser des pressings et avec des récupérations aux 40 mètres. C'est-à-dire qu'à la paire de balles, tu as effectivement 4-5 joueurs qui vont presser, mais tu as la ligne arrière qui n'est pas en train de compenser en fait, ces montées. Et tu te retrouves en fait avec une équipe qui est un petit peu coupée en deux, et derrière, tu vas effectivement cadenasser. Mais du coup, tu ne maximises pas les récupérations 40 qui seraient néanmoins super intéressantes, surtout si on réfléchit par rapport à l'apport que pourrait avoir Kylian Mbappé.
Je peux répondre ou je te laisse
Bien sûr, Barry, tu peux répondre.
Je ne suis pas forcément d'accord avec cette analyse, parce que déjà, la première chose, c'est que derrière, on était, comme j'ai dit, sur une ligne de 5. Et donc, forcément, j'avais l'impression que plutôt nos joueurs, au lieu d'aller au pressing direct, c'est-à-dire. Comme je le dis souvent, avoir un Verratti qui est un missile à tête chercheuse et donc foncer sur le porteur du ballon, on avait plutôt cette volonté d'annuler les lignes de passe et donc forcément d'avoir des passes stériles de Nantes et qui n'a pas forcément la capacité la capacité de possession, notamment contre le Paris Saint-Germain. Par contre, il y avait un joueur du côté de Nantes, j'ai oublié comment il s'appelle, leur ailier là, j'ai oublié le nom, leur numéro 10, celui qui va partir. Voilà, Ludovic Blas.
Qui est de région parisienne d'ailleurs.
Voilà. Je trouve que lui, justement, il était très intéressant et qui, lui, avec ses déplacements, essayait justement de casser ce placement entre les lignes. Justement, qui essaie de casser justement ce placement entre les lignes que Paris Saint-Germain avait mis en place. Et dernière chose, après, je laisse la parole. On est 533 sur le live. Ça nous fait énormément plaisir. Ça prouve qu'on développe au mieux la chaîne et que vous nous suivez. Ça nous touche beaucoup. C'est le premier match de la saison. Donc, je pense qu'on peut essayer de viser, aller les 270 likes. Ça nous ferait énormément plaisir. Voilà, ça.
Richard, la doudoune sauce.
En référencement. Donc, si on pourrait avoir 270 likes avant la fin du live, ça nous ferait énormément plaisir et ça nous aiderait à développer la chaîne.
Justement, après, pour continuer sur les choix de Galtier, il y a des choses quand même de mon côté que j'ai trouvé intéressant. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce rôle un peu hybride qu'avait Ramos dans la défense à 3, où il était tantôt défenseur central, tantôt il allait à droite pour compenser Hakimi. Moi, je l'ai trouvé intéressant. C'est le mot tantôt qui t'a fait mal aux oreilles à cause de Meunier, c'est ça?
Non,
mais je sais pas, il y a des joueurs que j'ai trouvé intéressants, justement, comme Ramos qu'on a très peu vu l'an dernier. J'ai trouvé Nuno Mendes super intéressant aussi dans son rôle d'ailier piston très percutant. Il y a qui comme joueur, vous, qui vous ont marqué positivement dans ce match, en tout cas?
Vitinha. Après, on peut pas ne pas nommer Neymar. Neymar qui est critiqué en veux-tu en voilà et a raison et a raison et a raison. Le nombre de fois où on a vu Neymar s'encastrer à essayer de faire un dribble pour essayer de dribbler quatre mecs alors qu'il était j'ai eu un doigt qui a failli se lever, j'ai réussi à le retenir au dernier moment. Mais le nombre de fois que Neymar a voulu s'encastrer dans quatre joueurs, chose qu'il fait je sais pas combien de fois par match. Aujourd'hui, je crois qu'il l'a fait zéro fois.
Une fois. Il a fait deux fois pour te dire. En début de match, après, il n'a plus fait.
Peut-être. Mais en tout cas, on a eu un Neymar qui était en recherche d'efficacité, qui avait cette intelligence-là. Alors après, si on veut tilter et on veut pinailler concernant Neymar, on peut dire qu'il y a plein de fois où il était là, il y avait dans son dos, tu avais Nuno Mendes ou tu avais Hakimi, peu importe, où il était incapable de trouver la passe, mais de toute façon, ça, on lui apprendra plus. Mais Neymar a fait un très très bon match à des années-lumière de tout ce qu'on passe notre temps à lui critiquer. Maintenant, le joueur qui m'impressionne ultra positivement, et encore une fois, ce n'est pas un Fury Class, c'est Vitinha, c'est un facilitateur de jeu. Le mec, il a une touche de balle, il relance, il est capable de relancer côté, de trouver des passes dans l'axe, il accompagne les actions, il est méga utile. Restera à juger Vitinha sur la dimension défensive, une fois qu'il faudra appliquer un pressing un peu plus cohérent, mais pour l'instant, il est en train de cocher toutes les cases, Vitinha.
En fait, si on met Vitinha, ces gens-là ont tellement été habitués avec notre milieu qui était un des pires du top 20 européen, je pense qu'il y avait Verratti et personne. Je ne cesse d'avoir un joueur qui joue simple, qui sait orienter, jouer en une touche, être propre, être bien placé, ça paraît. On n'était plus habitués, donc forcément Vitinha. Après, Neymar, Drea Satoudi, je mets Messi aussi, qui a joué plutôt simple, qui a trouvé beaucoup de décalage. Et je vais en sortir un quatrième. J'ai bien aimé le match avec Mbappé individuellement. Je trouve que ça a été le plus actif des trois décès dans la globalité. Et là,
franchement, rien à voir, hein, rien à voir. Mais pour le coup, ce que j'ai bien aimé, c'est même pas Kimpembe, c'est la complémentarité du côté gauche. C'est-à-dire Nuno Mendes et Kimpembe, j'ai énormément aimé. C'est-à-dire que il y avait toujours quelqu'un pour couper, Kimpembe qui sortait toujours avec des interventions franches et clairement pour récupérer le ballon. Il ne faisait aucun déchet. Lorsque le ballon il était sous pressing, il ressortait le ballon toujours correctement. Et ça, c'est une chose que beaucoup de personnes ne disent pas sur Kylian Mbappé. Pourquoi à chaque fois je les confonds les deux ? Sur Kimpembe, une chose que les gens ne disent pas, c'est que Kimpembe, balle au pied ou dans la ressortie de balle, il est toujours... Enfin, pas toujours, hein, mais en tout cas, il est souvent propre. Donc moi, pour moi, déjà, le côté gauche, j'ai beaucoup aimé. Dans les tops, je mettrai Neymar. Parce que comme j'ai dit, je trouve que Neymar qui redescend pour apporter du surnombre au milieu de terrain, pour pouvoir avoir une sorte de milieu en losange, un peu, on va dire, entre guillemets, vraiment entre guillemets, hein, mais un sorte de milieu en losange, j'ai trouvé ça très intéressant et donc ça a apporté le surnombre. Messi que j'ai bien aimé. Messi dont on n'a pas beaucoup parlé dans ce live, mais qu'à certains moments, je le trouvais effacé, mais effacé dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il n'était pas effacé en train de marcher comme il a l'habitude de le faire, mais effacé dans le jeu parce qu'il y avait soit Neymar qui avait le ballon pour éviter de passer dans l'axe, etc. Donc là, j'en suis à 3 et le... Non, j'en suis à 4. Du coup, 4. Donc je dirais dans les tops. Dans les tops, je mettrais les 4.
Mais juste pour rebondir sur Kimpembe, il a fait des choses ce soir qu'on n'avait plus l'habitude de le voir faire et qu'il faisait dans ses deux premières saisons, limite au Paris Saint-Germain. C'est-à-dire les sorties de balle, le côté autoritaire quand je sors la balle et que je fais la première relance, c'est mis à part sur les corners, etc., où on allait voir tous les décès, je pense que c'est le décès qui montait le plus et qui a apporté le plus sur surnombre au milieu, justement, en créant des décalages. Et il a été extrêmement intéressant là-dessus. Et ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu un Kimpembe à ce niveau, non pas défensivement, mais dans son apport avec ballon. Ça faisait vraiment très longtemps qu'on n'avait pas vu faire un match comme celui-là.
Même Marquinhos, vous n'avez pas trouvé qu'il a plus tenté des ballons longs, Marquinhos, que l'an dernier ?
Ah, des masses.
J'en ai pas. Non, mais par rapport à l'an dernier, je te compare.
C'est vrai que par rapport à l'an dernier, tu vois.
Mais je pense pas. Peut-être que j'en ai pas vu.
Marquis, on était habitué il y a deux ans. Un de ceux en Europe qui en tentait le plus. Donc c'est vrai qu'à l'année dernière, on n'avait plus du tout.
Et là, c'est... Et là, par rapport à l'an dernier, je te parle Basto, justement. Tu vois.
C'est de 0 à 1, forcément.
Ouais, mais non. C'était pas notable, en tout cas. C'était pas notable pour moi.
Après, sur Hakimi, franchement, je vous dis la vérité. C'est un match compliqué pour lui, c'est le contexte. Ouais. On ne va pas en parler parce qu'on ne fait pas de politique ici.
Voilà, mais mentalement, le contexte est compliqué pour Hakimi.
Se faire siffler, en plus, c'est la deuxième année de suite qu'il le fait, c'est assez compliqué. En fin de match, j'ai trouvé que Hakimi se réveillait pas mal. Et j'ai bien aimé d'ailleurs l'entrée de Mukele. Alors, voilà.
Trois duels gagnés.
Tu m'étonnes, c'est un Congolais, c'est pour ça. Mais rien à voir, j'ai bien aimé.
Il est
bien
pas aimé son. Hein.
Si, Mukele, si.
J'ai bien aimé son.
Un commentaire qui disait qu'il n'était pas congolais, il était je sais pas d'où,
mais il n'était pas congolais. Il est international
français, c'est tout, il est de Montréal. J'ai vu ce commentaire-là tout à l'heure qui disait que la vraie analyse, c'est que sans Mbappé, l'équipe est beaucoup plus consistante. Ouais. Pour moi, ce n'est pas sans Mbappé. C'est parce que les trois offensifs n'étaient pas ensemble. Donc ça, c'est la première chose.
Après, on a vu quand Mbappé était absent que c'était 10 fois plus laborieux. Hein. Déjà que ça l'était.
C'est ça. Après, le côté gauche était beaucoup plus fluide défensivement. Il y avait bien cette compensation de Kimpembe qui compensait les montées de Nuno Mendes. Nuno Mendes qui faisait bien les efforts défensifs pour revenir lorsque Kimpembe compensait. Donc c'était très intéressant.
Du et côté Neymar droit, qui redescendait c'est... du même côté, parce que Neymar, quand c'est il redescendait, ça. C'était côté gauche pour que Vitinha soit dans l'axe et Verratti un peu plus bas à droite.
Du côté droit, c'était un peu plus brouillon, on va dire, entre guillemets, même si c'était cohérent, parce que Ramos faisait quand même le travail de compensation à certains moments. Il y avait Hakimi qui, des fois, ne redescendait pas, mais c'était vraiment très, très rare. En général, il redescendait. Et tu avais des fois aussi Sarabia qui coulissait vers ce côté droit pour apporter le surnom, comme Neymar le faisait du côté gauche. Donc, j'ai trouvé que défensivement, nos ailes, on les a pas mal verrouillé, en sachant que dans le 3-5-2, dans ce système-là, l'un de offensivement, l'un de tes points forts, ça sera tes pistons, et défensivement, ça peut être aussi tes pistons, car en général, c'est le latéral qui vraiment coulisse clairement dans son couloir.
Vas-y,
Grishka.
Par rapport à Mbappé, et il y a quelque chose de juste là-dedans. Le fait d'avoir un Sarabia qui, mine de rien, même si on le voit peu, fait énormément d'efforts de replacement, de coupure de passe, etc. Le fait d'avoir un Mbappé, c'est un petit peu les mêmes remarques quand il n'y avait pas Messi ou quand il n'y avait pas Neymar et que tout à coup, c'était plus fluide. Et c'est vrai qu'avec Mbappé, il y aurait eu des séquences où sans ballon, on aurait été plus en difficulté. Maintenant, on peut pas dire ça parce qu'il y a des séquences où, par exemple, Sarabia n'arrive pas à convertir une demi-occasion en occasion et Mbappé l'a converti direct et va la planter. Il va la planter 9 fois sur 10.
Même l'équipe en face n'aurait pas joué dans la même disposition si Mbappé était là. Ils auraient joué plus bas par peur de se reprendre dans le dos aussi.
Mais je voulais insister sur le fait qu'en fait, la problématique est d'avoir autant de joueurs qui ne vont pas participer à 100% au pressing. Et c'est vrai que quand tu en enlèves un, tu vas retrouver des facilités. Mais si tu réfléchis, est-ce que c'est Mbappé qu'il faut que tu enlèves? Est-ce que c'est pas quelqu'un d'autre qu'il faudrait que tu enlèves? Et tu vois, toi, c'est ça.
Il y a personne qui va enlever
Mbappé.
En fait,
c'est ça. Non, mais c'est ça. Mais c'est un vrai débat. C'est-à-dire que tu en enlèves un, il y a des facilités que tu n'as pas.
Bah, l'année dernière, quand on enlevait Mbappé, c'était pire. Hein. C'était pas plus fluide. Alors que quand on enlevait Neymar Messi, ça l'était.
C'est vrai.
Mais les gars, j'ai une question. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que Neymar décroche et apporte le surnombre en position notamment de relayeur. Avec Kylian Mbappé, ça ne se fera pas, je pense. Je pense que, tu vois, ça va être une autre façon de jouer au football. Lorsque Kylian Mbappé sera mis avec Messi, forcément, on n'aura pas cette personne-là qui va venir s'intercaler au milieu de terrain. Tu auras Kylian Mbappé qui le fera, mais Kylian Mbappé le fera de manière haute. Neymar le faisait quand même de manière assez basse.
Je ne suis pas d'accord là-dessus dans le sens où c'est Neymar qui le fait. Et si tu veux, je pense vraiment que là-dessus, on va dire Galtier, mais je pense très fort Sacramento. Il y a cette volonté d'apporter ce surnombre au milieu, de tout le temps amener une situation où on est un joueur de plus que le milieu adverse. Et ça, de toute façon, ça sera travaillé. Et le Neymar qui, des fois d'ailleurs, il était même en registre, il n'était pas seulement en relayeur. Hein. Des fois, il était presque entre les centraux, Neymar, à certaines séquences. Et je pense que ça, c'est intentionnel, c'est travaillé. Et côté Mbappé plus Neymar ou côté Neymar plus Sarabia, de toute façon, tu auras Neymar qui fera ça parce que je pense que ça fait partie des demandes du coaching.
C'est pas vraiment ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que avec Neymar, justement, comme j'ai dit, lui, Neymar redescend vraiment très très bas dans ce sorte de système hybride. Avec Kylian Mbappé ne redescendra pas aussi bas. Donc forcément. Ce que je veux dire, c'est que ça permet d'avoir plusieurs systèmes de jeu. Là, par exemple, avec Neymar, on a vraiment un Neymar qui redescend vraiment bas pour pouvoir projeter les joueurs devant. Et donc là, ça fait un système de jeu. Avec Kylian Mbappé, ça va jouer beaucoup plus haut. Avec Neymar et Messi, ça va être différent. Avec Neymar et Mbappé, ça va être aussi différent. Donc, ça fait déjà potentiellement trois systèmes de jeu offensifs. Rien qu'avec les trois choses que tu peux mettre en place.
Okay.
C'était plus dans ce sens-là que je voulais dire.
Après, de toute façon, les relations entre attaquant et milieu. De toute façon, c'est travaillé, les relations selon ta composition.
Alors, oui, j'ai vu un commentaire aussi qui disait que Zaïre Emery n'avait pas joué, que c'était dommage. Alors, oui, mais après, en soi, c'est un trophée des champions, c'est le premier match officiel. T'as pas le droit à 15 changements non plus. Je pense qu'il aura du temps de jeu. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais je pense que Zaïre Emery a clairement ses chances cette saison. Voilà, vas-y, t'as levé la main, on va faire comme à l'école, tu peux commencer.
Non, mais il y a juste un truc, c'est avec les jeunes. Il y a un moment, il faut savoir laisser du temps aux jeunes. Quand on parle de Emery, on parle d'un joueur qui a 16 ans. Il y a une chose qui est de jouer des matchs amicaux, c'en est une autre que de jouer des matchs officiels, surtout sur lesquels il y a un titre au bout. Ça va être une autre que de jouer dans des matchs où il va se retrouver en Ligue 1, par exemple au Parc des Princes, où il y aura du bruit comme il n'en a jamais eu l'habitude, où tout à coup, la moindre de tes erreurs sera analysée, etc., etc., etc. Un jeune, ça se lance comme un jeune. C'est-à-dire que tu ne vas pas en attendre tout de suite d'être un titulaire. Le mec, il a 16 ans. Là, l'objectif pour lui, c'est d'avoir 200 minutes dans la première partie de saison. Et si jamais il n'a pas ces 200 minutes, on est dans la faute parce que clairement, il a le talent pour. Ça veut dire quoi, 200 minutes? Ça veut dire 10 minutes en fin de match quand le match est acquis pour commencer. Ensuite de ça, c'est des 30 minutes. Ensuite de ça, c'est des matchs qui comptent pour du beurre.
Il y a comme... la coupe.
Comme des coupes, etc., etc. Mais pas seulement les coupes, justement. Il faut aussi qu'il y ait des 10 minutes. Et après cette première partie de saison, tu vois comment il encaisse tout ça et tu upgrades le game. Mais un jeune, tu ne vas pas le lancer titulaire, même une mi-temps, dans un match décisif, au premier match de la saison, etc.
Bien sûr, mais tu vois, dans le contexte du 4-0 80e, il y a quelque chose à faire, tu vois.
Oui, mais... pas sur ce match-là, pas sur ce match-là.
Il y a des statuts. Bah, voilà, apparemment, tu as parlé qui sont devant pour un premier match. Après, si dans trois mois, c'est le sixième choix parce que tu as Renato Vitinha Marco et Paredes et Danilo devant, c'est sûr, et qu'il a zéro minute, c'est sûr que tu auras un problème. Par contre, ne pas lancer un joueur, si quand il est lancé, il est tout de suite très bon, il peut tout de suite passer troisième ou quatrième dans la rotation. Hein, ouais, Gavi à Barça à 17
là,
ans.
Mais oui, mais alors là, tu vas parler de Gavi.
Il y avait un autre contexte après, si tu me parles de Gavi.
Ah, c'est Gavi, déjà, il faut regarder les choses. Gavi, il faut regarder attentivement, parce que du coup, j'ai regardé quand tu l'avais proposé. Gavi, les trois premiers matchs, il est sur le banc. Ensuite il joue 10 minutes en premier match. Et ensuite de ça, il y a des blessures qu'il faut qu'on est obligé de faire appel à lui, etc. Et effectivement, il répond présent. Mais en soi, tu commences par des 10 minutes. C'est là
bah ouais, mais pour être 10 minutes, il faut déjà être 3e ou 4e rotation, pas 6e.
Mais non, mais justement, c'est que tu n'es pas dans la rotation. Quand tu es dans un jeune, tu es dans une rotation qui est parallèle. Ça n'a rien.
Dans une rotation
laisse-moi finir. Tu es dans une rotation qui est parallèle. C'est-à-dire qu'il y a une logique qui est différente qui s'applique à toi parce que tu es jeune. Tu vas petit à petit l'intégrer aux conditions.
Si tu es 6e choix, tu ne joueras pas du tout.
Mais tu n'es pas 6e choix. C'est bah, que
pour le moment, il est. Danilo et Paredes sont devant.
T'arrives pas à comprendre.
C'est eux qui sont
rentrés. J'arrête d'essayer.
Mais Igor, il ne veut pas comprendre. On n'est pas le Sporting, on n'est pas l'Ajax.
Dans 6 mois, quand Emery aura joué 20 minutes.
Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat
que je vous propose de lancer à la fin de ce live. Mais vas-y, Barry, je te laisse poursuivre.
au-delà de ça, moi, je vais pour poursuivre sur ce que dit Drias. Il faut savoir une chose, c'est qu'à 16 ans, ta croissance n'était pas terminée. Une blessure à cet âge-là, c'est très compliqué. Là, on parle d'un match où tu gagnes 4-0, certes. Oui, tu peux faire rentrer, mais on parle d'un match quand même de coupe. Enfin, il y a une compétition quand même au bout. On est quand même sur un trophée des champions. Donc, ça peut créer de la frustration en face. Avoir des tacles par-ci, par-là, tu fais rentrer Zaïre Emery, alors que tu as d'autres joueurs qui, eux, passent dans la hiérarchie avant lui. Pour moi, ça n'avait aucun sens de le faire rentrer aujourd'hui. Après, je suis d'accord avec Drias. Si durant la saison, tu vois, je ne sais pas moi, un PSG Clermont, Paris mène 4-0, à la 70e minute, 80e minute, et même dans ces matchs-là, Emery n'arrive pas à gratter ses 10 minutes de jeu, ses 15 minutes de jeu, ses petits ballons par-ci, par-là, bah pour moi, je trouverais ça pas normal. Mais oui, faire jouer Zaïre Emery dans ce match aujourd'hui, pour moi, je suis d'accord avec Dria, je trouve que c'est pas la bonne chose à faire. Enfin, après, voilà, il aurait pu le faire, mais je pense qu'il y avait quand même il y a quand même une hiérarchie à respecter, même si certains joueurs sont des indésirables pour le public, il y a quand même une hiérarchie à respecter, et cette hiérarchie a été respectée quand même.
Alors, il y a Mossia qui pose une question, qui demande si Michou est dehors. Bah, il a demandé à partir, il ne s'est pas présenté à la convocation de Luis Campos, a été sanctionné pour ça. Je pense que le bras de fer est bien entamé et qu'il a montré clairement ses envies de départ, en tout cas de son côté.
Il ne s'est pas déplacé, mais il avait été mis dans le groupe avec les jeunes qui n'étaient pas, pas dans le groupe élargi. De toute façon, le club lui avait dit « on ne compte pas sur toi ». Oui, mais de toute façon, il était déjà en dehors du projet de Campos et il faisait partie des jeunes sur lesquels le PSG ne compte pas. Et de toute façon, ça fait partie des jeunes sur lesquels le PSG compte vendre.
Il avait lui-même annoncé ses intentions de départ à la fin de saison de toute manière. Ce n'est pas comme si on avait le choix non plus. Mais il y a Abed qui poursuit en disant qu'il trouve Mendes très bon depuis son arrivée. Je suis tout à fait d'accord. Est-ce que Kurzawa a joué? Bah autant il a joué à FIFA qu'en championnat pour répondre Polo.
Il a joué à FIFA. Il a gagné le trophée avec Nantes sur FIFA.
Polo. Vas-y, Grishka.
Migno, c'est un fiori classe pour le coup, lui. C'est le mec qui a fait qu'une saison la saison d'avant, qui avait joué que en défense à 3, qui se retrouve avec Pochettino donc en défense à 4. Et au début, il faut se souvenir, au début de la saison passée, ça target le côté Nuno parce que tout le monde se dit que c'est le point faible. Ça s'arrête au bout de 3 mois. Pourquoi? Parce que Nuno, il avait compris le game, il s'était adapté, etc., etc. Le mec, il a un répertoire de passes. Enfin, c'est un génie, Nuno. C'est un alien. C'est le mec qui comprend le foot plus vite que les autres et qui progresse à vitesse grand V. C'est un joyau. C'est juste un joyau.
Et puis franchement, côté gauche, on est bien loti. Parce que même l'entrée de Bernat, on pourra dire ce qu'on veut, elle est très intéressante. Bernat, comme je l'ai toujours dit, hein, sa manière de prendre la profondeur par les courses est très intéressante. Je parlais tout à l'heure de cette signature qu'on pourrait mettre en place. C'est ce Neymar qui a le ballon, ou qui a Mbappé comme il l'a fait, qui lancerait Bernat, qui fera un appel pour repiquer à Kalimundo. On a tenté de le faire aujourd'hui. Comme je dis, ce n'est pas passé. Mais c'est clairement une signature qui peut être mise en place au Paris Saint-Germain. On sait qu'on n'a pas, ce pivot, on n'a pas ce joueur qui pourra récupérer du ballon de la tête. Donc, on va devoir passer à terre. Et dans ce système-là, Bernat est très intéressant.
On l'avait bien vu sous Tourelle, le circuit de jeu préférentiel, c'était Bernat, Verratti, Neymar. Il n'y en avait pas beaucoup d'autres. Donc, ce trio se trouvait très bien. Bernat, c'est un joueur qui est très intelligent et qui sait s'adapter. Que ce soit en se concentrant dans l'axe, notamment avec ballon, ou en prenant son couloir, il sait tout faire.
Tenez, mais d'ailleurs, pour vous expliquer un peu le commentaire qui vient d'arriver en bas. Alors, si vous devenez membre de Paris Central, vous avez la possibilité de jouer à FIFA, notamment avec moi, notamment avec Tonton, notamment avec toutes les personnes de l'équipe qui jouent à FIFA. On va lancer une équipe club pro, on va lancer des matchs saison, des choses très intéressantes. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à devenir membre pour pouvoir intégrer cette équipe et notamment aussi MPG.
Il y a 207 likes. Du coup, Dryas est parti, Grishka est parti mettre sa doudoune.
Sa doudoune. Il n'a qu'une parole.
Il a qu'une parole.
On a fait 203 abonnés, bravo à vous, hein, on doit le dire. Donc, du coup, vous avez gagné le chemin de la doudoune des revenus.
Les gens, vous êtes sans pitié, vous aurez pu vous arrêter à 199. Quoi. Hein, je proteste vigoureusement, c'est abusé.
Vous savez quoi? À 300, on finit tous en doudoune. À 300, on finit tous en doudoune.
Moi, je suis ma doudoune. Voilà. On va finir de plus en plus familier.
J'ai surveillé.
Je dis, à 200, je devais la mettre, mais j'ai le droit de l'enlever, du coup. Parce qu'il fait vraiment chaud.
T'as le droit de l'enlever. Alors, il y a Kevin qui dit quelque chose d'intéressant. Il ne faut pas oublier que Bernat a été blessé pendant un an et demi et il a mis énormément de temps à revenir des croisés.
Hein. Il a eu sa. Je crois qu'il a fait une infection, je crois, par rapport à sa
blessure, ouais.
Son opération, il me semble. Qui a rallongé sa blessure. Juste par contre, Tonton, on n'a pas eu tes tops et on n'a pas eu les flops de l'équipe. Parce que moi, j'ai un flop. Mais c'est pas vraiment un flop, mais j'en ai un.
Alors moi, au niveau de mes tops, je ne vais pas être très, très original. Mais bon, je vais être obligé de dire, vu comment j'étais pas sympa avec eux en fin de saison. Je suis obligé de citer Sergio Ramos parce qu'il a fait un bon match. Défensivement, il a été correct. Il a marqué un but, une Jérémy Ménez, pour ceux qui se rappellent son but à l'AC Milan à l'époque. Neymar, parce que je l'ai beaucoup critiqué aussi, mais ce soir, très grand match, hein, deux buts, beaucoup d'implications. Le Neymar qu'on a envie de voir, en fait. Pas celui qui déconne, c'est le Neymar qu'on a envie de voir, qu'on a vu ce soir. Et mention honorable à Messi, que je pensais perdu aussi, où je me posais de sérieuses questions quant à sa fin de saison et ses motivations. Mais il se trouve que l'approche de la Coupe du Monde motive plus que prévu Messi et Neymar, qui, je pense, savent tous les deux qu'ils jouent leur dernière Coupe du Monde. Et si tu veux faire une grande Coupe du Monde, il ne faut pas être en forme en novembre. Il faut être à son prime en novembre. Donc, je pense que les mecs ont pris le bon bout et professionnellement, il n'y a rien à dire. Ils ont fait un grand match.
C'est le problème.
C'est important de le dire.
Il en février. Ouais. On sera-t-il en février?
Alors.
Et ça sera le vrai test.
D'où les investissements sur Ekitike notamment. Je pense qu'il aura son temps de jeu notamment à ce moment-là parce que, au final, personne n'a parlé de l'absence d'Ekitike. On dirait que ce joueur n'a pas signé chez nous. Je vois des gens indignés de Kalimundo, de Zaïre Emery, mais Ekitike, voilà. Personne n'a parlé du fait qu'il n'a pas joué.
Il n'est pas prêt encore physiquement d'ailleurs.
C'est ça.
Il a été annoncé qu'il devait travailler, etc., qu'il devait poursuivre sa préparation et physiquement, il est juste pas prêt.
Je suis d'accord avec Mohamed qui dit que les joueurs ont tenu leur rang ce soir. En tout cas, les grands joueurs ont tenu le rang auquel on les attendait. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
D'ailleurs, fini les paillettes, les buts. Messi, Neymar, Ramos.
D'ailleurs, Neymar a tenu parole. Hein.
Neymar avait prévu que
tout allait rentrer, que les coups francs notamment allaient rentrer, les pénaltys aussi. Il a gagné
le coup franc. Le coup franc d'ailleurs est magnifique. Hein. Faut le dire, c'est son premier depuis quand déjà, Barry?
2019. Tonton, le dernier qu'il a mis, c'était en 2019.
Tonton, il y a juste un commentaire de Sam qui dit Vitinha flop, là surcoté, il est léger, il fait pas beaucoup progresser le jeu comme un vrai milieu central. Paredes doit être titulaire.
Alors, je savais que ce commentaire allait te piquer, mais je te laisse y répondre le plus poliment possible, Basto.
Mais j'ai juste envie, Sam, tu sais, il y a un moment où il y a des trucs, il y a des moments où, tu sais, c'est sans doute l'âge, il y a un moment où la qualité des yeux baisse et il faut juste acheter des lunettes.
Pourquoi
t'es Non, mais.
Non, mais sans pour être.
Pour le coup, Vitinha, c'est exactement l'homme qui accélère le jeu. C'est pas un Fiori classe et tu peux pas l'attendre là-dessus, mais il accélère le jeu. Le mec, en une touche de balle, il te trouve des mecs devant, il te trouve des mecs sur les ailes. C'est le seul dans l'effectif qui écarte.
Il est à l'aise avec le ballon.
À l'heure actuelle, non, mais juste le simple fait que c'est le seul qui écarte, parce que Pour l'instant, on a vu, alors je ne sais plus si c'était Neymar ou Messi, très belle, très, très, très beaux écarts, c'était genre sur un but, je ne me souviens plus avec ma mémoire défaillante, mais des personnes dans l'effectif qui écartent avant d'être dans les 20 mètres, il n'y en a qu'un seul, c'est Vitinha. Et on a des pistons qui ne sont pas servis.
Donc, il n'a que 22 ans, ça fait qu'un mois qu'il est au club, c'est son premier match officiel.
Essentiel.
Au-delà de ça, il nous dit qu'il faut que Paredes, titulaire, Paredes est très bon avec le ballon. Pour faire avancer le jeu, Vitinha il a cette chose en plus qui est non seulement de jouer vite et d'orienter comme a dit Dreas, mais sans ballon il vient proposer au premier receveur le ballon et ensuite derrière il va continuer avec des courses à vide dans l'espace, donc que ce soit avec ou sans ballon il fait avancer le jeu.
Mais même tu compares à Danilo qui a l'effet complètement inverse. Je sais pas si tu as vu cette séquence qui m'a fait beaucoup rire. Danilo il donne un ballon à Nuno Mendes et tu crois qu'il va se démarquer pour chercher le ballon dans la profondeur comme Vitinha, et au lieu de ça il prend son réflexe de défenseur et il dit lui il est libre, je vais faire le marquage. Et c'est pas un truc que fait Vitinha. Vitinha il donne le ballon et il se propose, et c'est ça qui est intéressant, tu vois. Après peut-être qu'il a pas fait gaffe plus que ça, parce que tu sais il y a des joueurs, tu regardes que le jeu avec ballon. Moi, je peux comprendre que la tactique, c'est chiant et que tu n'aies pas tout le temps envie de regarder le jeu sans ballon des joueurs. Mais Sam, je t'invite sincèrement à prendre le temps de regarder le jeu sans ballon de Vitinha, tu vois, et sa manière de se déplacer quand il n'a pas le ballon. Je trouve que c'est intéressant. Et c'est des choses. Bah, j'ai l'impression qu'il a plusieurs qualités et que tu avais besoin d'avoir trois milieux pour avoir ça l'an dernier. Tu avais besoin d'avoir le ballon de Paredes, les courses de Gueye et les projections de Wijnaldum. Mais là, tu les as en un seul joueur. Et c'est quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça facilite vachement quand même au milieu.
Pour être tout à fait franc avec toi, moi j'avais certaines réserves sur ce système de jeu là. Je trouvais que le 3-5-2 en pointe haute n'était pas forcément quelque chose de très intéressant. Mais après, je prenais en compte que Kylian Mbappé jouerait. Et comme je le dis souvent, les trois offensives, j'ai énormément de réserves. Donc moi, je partais du principe que si on mettait les trois offensives, je préférais avoir une pointe basse. Pointe basse, c'est-à-dire avec un 6 plutôt qu'un numéro 10. Et donc du coup, ça m'a agréablement surpris, parce qu'en phase offensive, on se retrouverait pas forcément dans un 3-5-2, mais avec Neymar qui décrochait, à certaines phases de jeu, on se retrouvait dans un 3-6-1, avec un sorte de milieu en losange qui franchement ne me faisait pas forcément tirer la gueule. Après, c'était expérimental, donc à voir si on pourra le refaire au cours de la saison.
Voyez,
mais voilà. Tu m'as dit ?
C'est travaillé, c'est-à-dire que c'est un truc que tu voyais au deuxième match.
Non, mais quand je te dis.
Mais c'est un truc que tu voyais sur le deuxième match, c'est un truc que tu vois maintenant, c'est-à-dire que la volonté, alors je sais pas, 3-6-1 et tout ça, moi j'ai eu un moment où les chiffres j'y perds, mais cette volonté d'assurer le surnombre permanent au milieu, pas un décrochage, que ça vienne de derrière ou que ça vienne de devant, c'est quelque chose qui est bossé, c'est quelque chose qui est clairement demandé par l'encadrement. Sacramento, pardon, j'ai rien dit. Et c'est bossé, c'est pas quelque chose. Non, mais... à revoir dans la durée.
Ce que je voulais dire, c'était dans le 3-6-1, c'est-à-dire qu'avec Neymar qui redescend, tu te retrouves avec un sorte de losange au milieu de terrain, donc 4 joueurs. Sur les côtés, tu as tes deux pistons, donc 6 joueurs. Et en face, tu aurais Sarabia ou Kylian Mbappé qui, lui, serait dans la profondeur. Donc un 3-6-1, c'est plutôt dans ce sens-là. Et donc, du coup, Neymar qui faisait pas mal la passerelle, et j'ai vu un but incroyable. Et je veux parler de ce but, car Panam Diaye vient de mettre un but, une frappe au lucarne.
Merci à toi, Madame J, ça fait plaisir.
Le cinquième but, c'est le cinquième but.
C'est le cinquième, exactement.
Voilà. Et donc voilà, ce 3-6-1 que je trouvais assez intéressant. Donc avant, avec Kylian Mbappé, on pourra mettre ça en place. Et comme je vous ai dit, moi j'avais certaines réserves sur pourquoi je voulais un milieu point de basse. Parce que j'avais des réserves sur le double pivot, Vitinha-Verratti. Et aujourd'hui, je trouve que ces réserves ont été gommées, donc Verratti qui redescendait. Et concernant mes flops, moi j'en ai un et j'en ai un autre. Edrias, il va me dire, je t'avais dit, patati patata. Mon premier, c'est pas vraiment un flop, mais c'est vrai que j'ai trouvé la première mi-temps de Verratti assez brouillonne. J'ai trouvé que beaucoup de passes mal dosées, beaucoup de mauvais placements à certains moments, donc c'était assez brouillon. Et mon deuxième flop, c'est l'entrée de Paredes. Je trouve que le gars marche. Moi, clairement, ça m'a dérangé. Il marche.
Je t'interroge juste deux secondes.
Pour moi, il a fait ce qu'il sait faire. Hein.
Mais pour moi, non.
Barry, je t'interroge juste deux secondes. Il rentre et il est blond. Et maintenant, tu peux continuer.
Ah. Il rentre et il est ?
Il est blond.
Il est beau.
Il est très blond.
C'est une galère. Ce que je veux dire, c'est que oui, d'accord, le jeu de Paredes est basé sur un jeu de position. Il va se placer entre les lignes. Ça, je suis d'accord. Mais quand tu joues dans un double pivot, je suis désolé, en phase défensive, tu ne peux pas te permettre de uniquement rester là et à te placer comme si tu étais un 6. Non, tu dois te placer entre les lignes de passe, mais correctement, tactiquement, de manière intéressante. Et là, je trouvais que Paredes, dans son entrée, bah, j'ai trouvé que son entrée
était un peu...
Moi, j'ai pas aimé, j'ai trouvé que c'était trop lent, j'ai trouvé que c'était un peu... J'avais l'impression qu'il boudait un peu, qu'il avait pas trop envie. Et pourtant, Paredes, c'est un joueur que j'aime bien.
Malheureusement, moi, vois, l'inverse, je l'aime pas, malheureusement. Mais je trouve qu'il a fait ce qu'il savait faire, tu vois.
Pour répondre à Tichu Tundu, malheureusement, moi, quand j'aime un joueur, je suis dur. Et vous en êtes rendu compte, avec notamment Hakimi, avec notamment Messi, avec notamment Neymar. Quand ils font de très bons matchs, je le dis, et quand ils font des mauvais matchs, je suis deux fois plus dur avec eux. Notamment avec Kimpembe ou encore avec
et moi, je suis pas d'accord avec toi, Barry. J'allais te dire, tu vois, Paredes, je l'aime pas. Et pourtant, tu vois, j'allais te dire, je pense que c'est le système aussi qui le dérange, parce que normalement, il se cale entre les deux centraux. Mais là, t'en avais trois. Donc, du coup, ouais, il faisait un peu. Tu sais, il était un peu perdu. Mais par contre, dès qu'il a le ballon, il faisait ce qu'il savait faire. Techniquement, il était bon. Il écartait pas mal le jeu. Bon, bas sur le terrain, tu vois. Mais moi, j'ai trouvé qu'il a fait des choses intéressantes, Paredes, quand même. T'as pas l'air d'accord
défensivement.
Oui, défensivement, bien sûr. Mais voilà. Il s'étage parce que bah, le système, c'est pas un système dans lequel il est habitué à jouer. Normalement, il est à la place du mec qui était le troisième d'essai, qui est Marquinhos.
Ouais, oui, mais je suis relou. Je suis relou, tu peux le dire. Je suis relou.
Deux secondes. On va apprendre avec Verratti. Verratti, c'est vrai qu'il rate trois passes en début de match. C'est
à la 25e, il en fait une dans l'axe qui est dégueulasse, qui a failli faire la frappe cadrée d'ailleurs de Ludovic Blas, la seule cadrée de Nantes qui aurait pu faire un but s'il ne fait pas une parade incroyable de Donnarumma.
Verratti, justement, dans un match un petit peu dans les standards de ce qu'est censé faire Paredes, était mille fois meilleur qu'un Paredes qui rentre en fin de match. Donc Verratti qui fait 4-5 erreurs était mille fois meilleur qu'un Paredes en fin de match.
Dans ce cas, tout le monde marche.
Mais ça peut être. Bah oui. Ça peut être. Non, mais bien sûr. Non, mais si tu veux.
Le score aussi, au moment où Paredes rentre, Drias.
Tonton.
Même. C'est pas une raison.
Pas forcément mettre ça en avant dans le sens où il le fait de manière assez faible.
Tu pourrais. Il me tilt.
Vas-y.
Il me tilt. Vas-y. Depuis tout à l'heure. Et en gros, il dit.
Vas-y.
Il dit Vitinha, c'est trop léger physiquement, notamment pour les gros matchs. Et derrière, il dit il faudrait un Renato Sanchez. Et il suffit de regarder Vitinha, c'est un des joueurs qui récupère le plus de ballons en Europe. Et Renato, c'est l'inverse. Il est parmi les stats défensives en pressing tenté, pressing réussi, récupération. Renato est dans le top 20%. Dans le top 20%, les moins bons de son poste. Donc, à bout d'un moment,
mais les gars, en parlant de Vitinha, etc., mais vous n'avez pas vu que le Paris Saint-Germain n'était pas forcément dans le pressing? Ils étaient plus dans l'étouffement du jeu de Nantes et plutôt dans cette volonté de les pousser à tout prix. Bah, c'est un principe de jeu du 3-5-2. Je vais faire une vidéo dans pas longtemps où je vais expliquer ça. De
pousser à faire des passes longues inutiles.
Oui, ouais. De les pousser à faire des passes longues parce que tu sais que derrière, tu as Ramos, Kimpembe et Marquinhos qui, eux, ont des bons jeux de tête et qui sont en extension très intéressants pour récupérer les ballons. Et surtout, d'isoler les latéraux adverses pour pouvoir justement avoir une sorte d'équipe de Nantes qui est coupée en deux et justement les pousser vers le côté à tout prix pour les étouffer. Et ça, justement, ce que vous ne vous rendez pas compte, c'est que ce n'est pas forcément le pressing de Vitinha qui n'est pas intéressant. C'est sa manière qui a justement de pousser l'équipe de Nantes vers le côté à les enfermer et d'empêcher justement à Nantes de pouvoir ressortir des ballons correctement. C'est en ça que Vitinha est intéressant défensivement et non pas dans ses pressings rapides et directs sur le porteur du ballon.
Alors, je trouve qu'on a un commentaire assez intéressant de Laurent qui demande si on peut faire un point sur les départs et les arrivées possibles. Alors, justement, les gars, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais sur la feuille de match, j'ai pas vu le nom de Idriss Agueil. J'ai pas vu, même sur le banc des remplaçants, le nom de Thilo Kehrer. Est-ce que ces joueurs sont en négociation peut-être avancée avec Séville et Everton pour Kehrer et Gueye en ce qui les concerne? Et j'ai même vu émerger, je dis bien une rumeur, hein, donc moi, je n'ai pas d'infos et je ne vais pas prétendre en avoir, une rumeur de négociation entre Paris et l'AC Milan pour Abdou Diallo. Donc, vous en pensez quoi, vous, les gars, justement? Est-ce que ces départs peuvent engendrer, selon vous, des arrivées et selon vous, bah, quel joueur pourra arriver?
De toute façon,
les gars, juste, s'il vous plaît, n'oubliez pas les likes. Hein, n'oubliez pas les likes. Franchement, ça nous aide énormément à développer la chaîne.
Donc,
des likes. On est 474, ça nous fait très plaisir. Et s'il vous plaît, like. Excuse-moi de te couper la parole, Bastien.
Non, pour finir, a priori, Gueye et Everton, ce serait en négociation avancée. Donc là, a priori, serait remplacé par Renato Sanchez qui derrière arrive. Je ne pense pas qu'on fera d'autres milieux. Même s'il devait y avoir un autre départ, peut-être par Edes à la Juve.
Ah oui, j'avais oublié cette rumeur aussi. Ouais.
Kehrer, il est déjà remplacé par Mukiele. Donc, il sera pas remplacé de nouveau. Après, il manque de toute façon un défenseur central titulaire. Mais Mukiele, il a ce côté qu'avec Kehrer, c'est-à-dire qu'il peut jouer à la fois axe droit et en doublure de Hakimi. Donc, voilà, en termes d'arrivée, je pense qu'on va avoir Renato, il faut ce défenseur. Skriniar, ça commence à patauger. On parle de Fofana, mais c'est très cher, donc c'est encore plus cher. Donc ça
m'étonnerait. Et puis c'est, je comprends pas.
C'est différent, c'est différent.
Si tu vas pas payer Skriniar 70, aller chercher Fofana 90,
c'est complètement différent. C'est complètement différent, Wesley Fofana. En passant quand même de Skriniar à Fofana, je trouve que quand même, on est quand même sur comment dire, sur
une baisse de...
Tu dis, bah, vraiment dans le football, ça n'a rien à voir. Et juste, par contre, j'ai vu une question tout à l'heure. Je suis désolé, Clem, j'ai pas pu la faire monter sur le milieu de terrain, Manuel Ugarte.
Oui.
Ugarte, du coup, et que je trouve très intéressant. Et je trouve que, je pense que, il me semble que Drias, tu as tourné une vidéo dessus, non? Si je dis pas de bêtises.
Non, sur Ugarte, non, je connais absolument pas le joueur.
Ok, excuse-moi. Alors, j'ai
dû tromper. Alex, tu as une vidéo sur le sujet.
Mais du coup, Clem, on essaiera de tourner une vidéo sur lui.
Je voulais juste sur Fofana revenir. Et tout à coup,
lequel, Seco ou Wesley?
Non, Wesley. Tout à coup, on voit apparaître la rumeur. Le mec, il n'a jamais joué à 3. Ce qu'on recherche en DC, parce que Ramos...
Ballester.
Ce qu'on cherche en DC, parce que Ramos, c'est pas fiable. Je ne sais pas ce qui se passe, tonton, là. Mais c'est pas fiable. On recherche un patron. Wesley Fofana, c'est un jeune. Il n'a jamais joué à 3. Je vois cette rumeur apparaître tout à coup qui prend de l'ampleur. Ça serait une bonne chose pour remplacer Skriniar. Mais ça n'a rien à voir. Il faut arrêter les gens.
Attention, ça sort aujourd'hui la rumeur Fofana, et oui, d'un coup elle sort aussi à Chelsea et de Leicester,
mais, bien sûr, en tout cas sur les réseaux sociaux, t'as tous les supporters parisiens qui s'emballent dessus.
Parce que
cet emballement,
il a son âge et c'est peut-être dans le top 3.
Il est formidable, mais il n'est pas par rapport aux besoins que tu as.
Je comprends pas, en fait, moi franchement je comprends pas. Vraiment, moi aussi je suis d'accord avec Drias, comme j'ai dit au début. Je ne comprends pas comment tu peux passer de Skriniar à Seko Fofana, sachant que c'est Wesley Fofana, sachant que c'est deux profils complètement différents. Juste, je voulais juste répondre à un commentaire de Monkey D Naruto. Alors déjà, personne n'a dit du mal de Neymar aujourd'hui. Par contre, si tu te permets de réinsulter quelqu'un dans ce live, je te bloque. C'est la dernière fois que je te préviens.
Non, mais je pense que c'est pas pour insulter. Je pense qu'il le dit de manière générale, tu vois. Mais
ah ok, d'accord.
Je pense que c'est plus dit de manière générale, c'est parce que même dans les médias, dans les journaux, il y avait les rumeurs. Faut dégager Neymar à Manchester City. Donc je pense que c'est plus, je pense, un fan de Neymar qui pousse un coup de gueule, un ras-le-bol. Et comme Neymar a fait un bon match ce soir, faut le dire aussi, je pense que il a de quoi être content, tu vois, c'est normal.
C'est Simbad qui est dans le live.
Non, Simbad est en vacances. Laissons-le tranquille.
Non mais oui, moi je suis encore pour pousser ce que dit Drias. Au-delà du fait que Wesley est un supporter de l'OM et ça commence à m'énerver, on en a déjà un, on va pas en prendre un deuxième. Non mais je vois pas comment tu peux passer de Skriniar à Wesley en sachant que c'est deux profils différents. Après je suis plus nuancé que Drias sur le fait que Skriniar a joué dans une défense à 3. Skriniar a joué dans une défense à 3 à l'Inter. La défense à 3 que le Paris Saint-Germain met en place a quand même quelques différences avec ce qu'il avait à l'Inter, et on parle d'un nouveau contexte. Mais au-delà de ça, oui, je comprends pas comment tu peux passer de Skriniar qui est clairement un des top défenseur actuel, côté droit, on va pas refaire
le plus dur, il a un âge intéressant.
On en a déjà parlé énormément, que ce soit en live ou même sur une vidéo de Skriniar que je vous invite à aller regarder pour comprendre les caractéristiques du joueur. Il arrive à l'âge, comme dit Tonton, à 27 ans, c'est parfait. Je vois pas pourquoi on irait chercher un joueur qui a beaucoup moins d'expérience et qui, je ne sais même pas s'il arrivera à s'implanter dans une défense à 3. Voilà. Après la polyvalence de Wesley Fofana, elle est intéressante. Parce qu'il peut jouer aussi à certains moments, à d'autres postes aussi. Donc c'est assez intéressant. Mais
pour rebondir sur ce que dit Barry, et un truc qu'on a vu ce soir, c'est qu'on a vu une défense qui était cohérente, en tout cas pendant au moins 20 minutes. Et puis ensuite de ça, c'est peut-être plus discutable, etc. Mais il y avait un certain joueur qui s'appelait Sergio Ramos. Et c'est tout con, mais quand tu as un patron dans tes centraux, eh ben, ça facilite le travail. Allez, Doudou, on est déjà prête. Mais le truc, c'est que Ramos n'est pas fiable. Donc, on a besoin de ce patron derrière. On a besoin de Skriniar. C'est juste. Et on n'a pas besoin de Fofana. Fofana, ça serait un super plan. Mais ce serait un super plan. Pourquoi que tu as signé Skriniar? C'est comme un Guardiol. Ce serait formidable, Guardiol. Une fois que tu as signé Skriniar, c'est d'abord, tu as besoin de
récupérer. C'est la cerise sur le gâteau.
Qui est titulaire. Et derrière. Mais j'en sais rien, mais il faut Skriniar.
Il y avait Koundé en plan B.
Non, Koundé, c'est pas un patron.
Mais si, c'est un patron.
Mais non, c'est pas un patron.
Non, je suis d'accord. Mais non, je suis d'accord.
Il a déjà signé à Barcelone. Tu vis dans quel grand
titre? Non, mais faut. Je suis d'accord avec Grishka, moi. Je suis d'accord avec Grishka. Il faut commencer à cesser avec Koundé. Il faut commencer à cesser avec Koundé. De toute façon, je pense que Koundé. Je pense que Koundé, de toute façon, on va en parler dans notre chaîne, du coup, Foot Central, où justement c'est basé plus sur le football. Mais je trouve que je suis d'accord avec Grishka. Je trouve que Koundé, il faut quand même un peu se calmer un peu sur Koundé. Que je trouve certes très intéressant. Tiens, justement, bah, juste derrière, juste en bas, vous avez le visuel de Foot Central. Mais Koundé par rapport à Skriniar, c'est quand même une, je veux pas dire une régression, parce que Koundé a quand même beaucoup de qualité. Mais je trouve clairement que Skriniar est à un niveau au-dessus.
Mais
que
pourquoi
ce soit.
Vous parlez de Koundé, les gars? Il non, a déjà signé autre part.
Non, parce que.
Il coûtait 50 millions. Maintenant, Igor. Si les plans B ils sont plus chers que Skriniar comme Fofana, il n'y a plus rien. En fait, tu es obligé de faire Skriniar maintenant. Il n'y a plus de plan B en axe droit. Dans un axe gauche, Kipembe venait à partir.
Mais ça va se décanter. Vous allez voir. Moi, je pense que Skriniar, il va venir. C'est sûr. Ah, s'il faut encore des rendez-vous, c'est qu'il va venir. Je le sens comme ça. Après, s'il ne vient pas, dommage.
Disons que tu peux dire aussi que les ventes qui sont annoncées par le club, si elles se réalisent, peuvent peut-être aider au financement de ce transfert et qu'on attendait aussi certaines ventes pour pouvoir activer certains achats. Je te rappelle que Ekitike, c'est un prêt avec option d'achat. Mukiele, il a acheté au rabais. Renato Sanchez, on parle d'une somme au rabais. Donc, je pense que si tu fais ces opérations-là en amont, c'est parce que tu dis que tu n'as pas vendu et que du coup, bah, dès que tu auras vendu, peut-être que tu pourras te permettre un Skriniar et que c'est ça qui fait traîner. Peut-être comme avec Hakimi l'an dernier, tu ne voulais pas payer le prix demandé par le club à la base, donc tu négocies longtemps, mais peut-être qu'au final, tu vas finir par payer le prix que l'Inter a demandé pour Skriniar. Et que bah, là, tu dis, bah, j'attends une ou deux ventes, peut-être que la vente de Diallo, Ekerer et Kalimuendo vont me permettre l'achat de Skriniar. Je dis ça au hasard, tu vois. Mais il y a peut-être aussi ce facteur à prendre en compte.
Mais je pense qu'il part à 65.
À 65, c'est plus ou moins ce que demande l'Inter. Nous, on donne 50,
non,
tu
veux
70.
L'Inter, il y a un moment, ils étaient à 90.
Non, c'était 70. Ça 90, l'Inter. Si.
Non, mais... 70 pour moi.
Non, 70. 70 aussi.
Non,
ça a toujours été 70. Tu confonds Kofana.
Mais bon, vas-y.
Non, c'est bon, je sais plus ce que je voulais dire, comme tu as parlé en même temps, j'ai oublié.
Non, mais j'allais vous dire, justement, on a dépassé l'heure de live en ce qui me concerne. On a clôturé les sujets qu'on avait prévus pour ce live. Je vois qu'on est 489 en live, je vois qu'on a fait 283 pouces, donc félicitations à vous, ça fait plaisir. Merci à tous d'avoir été là pendant ce live. Alors, demain, on ne fera pas de live à 13h, parce que vous doutez bien, on vient de faire le live débrief après match, et je vois pas ce qu'il y a comme comète qui va bouleverser la Terre entière et qui va nous provoquer un live demain à 13h. À part si OVNI est signature de très gros joueurs, je pense qu'il n'y aura pas de live demain à 13h. Mais merci à tous de nous avoir suivis en tout cas. On se retrouve sur Foot Central mardi à 13h, la chaîne qui parle d'autres clubs que le PSG. Mais on se retrouve sur Paris Central dès vendredi pour faire l'avant-match de PSG Clermont, la reprise de la Ligue 1 et enfin le foot et les débriefs de matchs comme on les attendait depuis longtemps. Merci à tous d'avoir été là en tout cas. Merci aux frères Bogdanov, Igor et Grishka, les inimitables. Merci à Barry d'avoir été avec nous. Merci à tous les auditeurs dans ce live. Merci à tous d'avoir été là. Et n'oubliez pas, ici c'est Paris.
Et ici c'est Barry.